Bonsoir.
Avant de commencer, j'ai une toute petite remarque, si vous me permettez. Alors là, ce que nous faisons, c'est de l'évangélisation et non pas évangélisme. Parce que évangélisme, c'est... Bon, l'anglais, c'est évangélisme. Alors qu'évangélisme en français, c'est la doctrine elle-même. Mais le fait d'évangéliser, credo, c'est l'évangélisation. Voilà. Alors, aujourd'hui... la séance, la conférence est intitulée « Comment présenter la Bible ?» L'étude de la Bible est la méthode la plus directe, la plus simple qu'on utilise afin de transmettre notre message aux autres, que ce soit des jeunes, des âgés, hommes, femmes, enfants, etc. Et donc, une bonne présentation de la Bible doit s'effectuer, se faire à travers quatre étapes. Je vais dire les quatre étapes et puis je vais prendre une à une. Tout d'abord, introduire le texte, le passage que nous allons lire. Ensuite, deuxièmement, il faut lire le texte. Troisièmement, il faut comprendre l'intention de l'auteur du texte. Et quatrièmement, il faut méditer et appliquer. Je répète donc, introduire, lire, comprendre l'intention et méditer et appliquer. Donc, premièrement, c'est l'introduction. L'introduction, qu'est-ce que c'est que l'introduction? Alors, lorsque je vais introduire un livre, avant de prendre le passage, avant de prendre le texte extrait de ce livre, il faut parler un peu du livre, donner une sorte d'aperçu historique, qui a écrit ce livre, en quelle année, quelles étaient les circonstances historiques, si c'était avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, etc. Donc, on va dire à qui ce livre fut adressé, pourquoi il l'a écrit et son langage. Et par exemple, si nous jetons un coup d'œil sur l'évangile selon saint Matthieu, nous voyons qu'il l'a adressé aux Juifs en leur parlant du Messie qu'ils attendaient. Et alors, vous trouverez dans l'évangile de saint Matthieu beaucoup de versets qui se réfèrent à l'Ancien Testament. Par contre, dans l'évangile selon saint Luc, qui est adressé aux Grecs, il accordait beaucoup d'importance aux enseignements du Seigneur, puisque les Grecs sont des philosophes. Saint Marc, quant à lui, lorsqu'il s'est adressé aux Romains, il s'est appuyé sur la puissance du Christ, comme à l'époque les Romains étaient les plus puissants. Quant à saint Jean, lui, il a mis l'accent sur la divinité du Christ. Alors, il faut comprendre chaque auteur de chaque évangile, épître ou livre, il faut le comprendre, il faut comprendre à qui il s'adressait, et là alors nous allons comprendre le contenu du livre. Alors, avant de lire le livre, il faut donner une idée générale de ce contenu. Par exemple, si nous parlons de l'Exode, le livre de l'Exode, El Khurouj, on va dire que c'est un des cinq livres du Pentateuch de Moïse. Et alors, là, on va expliquer que dans l'Exode, on parle des Juifs en Égypte, la traversée de la mer Rouge, le salut, Pâques, etc. Parlez un peu de Moïse. Alors, Moïse, c'était à peu près 1500 avant Jésus-Christ, etc. Hein? Parler un peu histoire, circonstances, brièvement donner l'histoire du livre et puis prendre l'extrait et le lire ensemble. Par exemple, si nous parlons du livre des Proverbes, on va dire qu'il fut écrit par Salomon, le roi juif, il traite des enseignements pour la vie quotidienne, tant au niveau moral qu'au niveau spirituel. Et il appartient au genre poétique. Il nous apprend comment vivre avec l'Éternel, comment contrôler son tempérament, etc. Pour les épîtres de saint Paul, par exemple. Alors là, il faut donner une histoire de l'histoire, une idée de l'histoire de Saül, Shaul, et comment il est devenu saint Paul. Et l'objectif de son épître, par exemple, l'épître aux Romains. Les Romains, c'était les citoyens de Rome, si vous voulez, la capitale de l'Italie. Et là, il faut dire que ces épîtres traitent de quoi? L'idée du salut, c'est une chose. Une deuxième chose, alors, c'est la question de la judaïsation. C'est-à-dire, il y avait des gens qui disaient qu'il fallait pour les nations se convertir tout d'abord à la religion juive pour devenir chrétien ensuite. Alors que lui, il a dit non, il ne le fallait pas, alors on pouvait devenir chrétien sans passer alors par la religion juive. On explique les grandes idées du livre et puis on prend l'extrait. Hein? On explique généralement et puis on prend les détails. Voilà. Alors, je répète donc, pour la première étape, il faut donner une vue d'ensemble du livre que nous allons lire. Ça, c'est la première étape. Pour notre deuxième étape, alors, c'est la lecture du texte. Comment on va lire le texte? On doit lire le chapitre de manière claire, lente, et au moins deux fois. Deux fois. Parce que les gens qui ne connaissent pas la Bible doivent se concentrer et bien suivre ce qui est lu. Et il faut faire attention à plusieurs points. Je répète, il faut lire lentement, d'une manière claire, à voix haute et au moins deux fois le texte que nous allons travailler avec les personnes qui font l'étude de la Bible. Alors, sur quoi il faut focaliser ? Tout d'abord, l'articulation des mots. Hein? Il faut que chaque mot soit clair. Et surtout en arabe, si jamais vous... Alors l'arabe, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a le teshkil. D'ailleurs, personnellement, lorsque quelque chose n'est pas très, très évident en arabe, j'ai toujours recours au texte français. Hein? Teshkil, mabni, al-maghoul, al-ma'loum, etc. Deuxièmement, faire la liaison entre les différents versets. Hein? Le verset et le verset qui vient après, etc. Faire la liaison. Ensuite, souligner les répétitions. Lorsque nous trouvons une notion qui se répète des mots à plusieurs reprises. Par exemple, et on va se demander pourquoi. Pourquoi Saint Matthieu, tout le temps, à plusieurs reprises, il dit « comme écrit, kama huwa maktoub ». Pourquoi ? Je répète, parce qu'il s'adresse aux Juifs, et alors là, il leur rappelle tout le temps, voilà, je me réfère à l'Ancien Testament. Saint Marc, alors lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit tout le temps, aussitôt, walel waqt. Pourquoi ? Parce qu'il est à court de temps, hein ? Il ne faut pas traîner. Par exemple, laissant aussitôt leur filet, ils le suivirent, parlant des disciples. Donc, là, il ne faut pas qu'on parle tout le temps, mais il faut qu'on s'arrête, qu'on adresse la question à l'audience, pourquoi tel mot est répété, pourquoi telle notion est répétée, et ainsi de suite. Mais alors, faire une séance ou un cours comme ça en une demi-heure et partir, alors c'est pas très conseillé. Donc, on s'arrête, on souligne les répétitions, et on demande pourquoi. Il faut faire attention aussi à la signification des mots. Par exemple, lorsque dans l'évangile de Saint Jean, nous trouvons que Jésus dit « Je suis, je suis, je suis, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis le bon pasteur », alors tout ceci c'est pour souligner la nature et la divinité du Christ. Donc, la signification des mots est très importante. Tout aussi, il faut faire attention aux temps verbaux. Les verbes, dans quel temps? S'ils sont au passé, au présent, au futur, le participe présent, l'impératif, le conditionnel, etc. Et normalement, le Seigneur utilise le présent. Il fait ceci et cela, il est avec nous. C'est une continue. Ce qu'on appelle le mudar al-mustamir. Hein? Ce n'est pas terminé. Un autre point auquel il faut toujours faire attention, c'est le style. Si c'est une condition, si c'est un ordre, l'impératif, ou si c'est une question. Par exemple, la promesse. Dans le serment sur la montagne, le Seigneur dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et après, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. On peut le croire et dire, Hadir, ok, Amen. Là, alors, dans le sens, ça relève de la foi, puisqu'il y a une promesse. L'ordre, par contre, si le Seigneur se contente de dire « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus », alors « Cherchez », c'est un ordre. Le temps est à l'impératif. Donc, on doit dire « Bien entendu ». Vous voyez la différence? Pour la promesse, il y a de la foi. Je crois, j'ai de la foi. Mais ici, c'est un ordre et je dis oui, Seigneur, bien entendu. Bon, la condition, alors, la condition, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors là, c'est la condition. Il faut faire quelque chose pour aboutir, pour prendre une autre chose. Et finalement, la question. Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu, Adam ?» Dans la Bible, certaines questions n'ont pas besoin de réponse, mais leur intérêt est d'aider l'homme à réfléchir, parce que, évidemment, Dieu savait où était Adam. Mais c'est une question adressée à nos lecteurs. Donc, dans le style, il y avait la promesse, il y avait l'ordre, la condition et la question. Autre chose sur laquelle il faut focaliser, c'est les métaphores utilisées. Toujours, nous sommes dans la deuxième étape, celle de la lecture. Les métaphores. Le Seigneur utilisait toujours des paraboles, et l'amsel. Hein? Il ne leur parlait point sans paraboles. Marc 4, 34. Et il faut se demander pourquoi il utilise la levure, pourquoi les poissons, etc. Parce que chacune de ces choses est un symbole. La levure est un symbole, les poissons sont un symbole, etc. Et alors, les aspects linguistiques, lorsqu'il parle à la première personne, lorsqu'on parle à la troisième personne, si c'est un style interrogatif, si c'est un style exclamatif, actif, passif. Alors, tous ces aspects exercent un impact sur la compréhension du texte. Et alors, dernièrement, toujours dans la lecture, il faut se demander à qui les paroles sont adressées et dans quelles circonstances elles sont adressées. Je vous donne un exemple. Quand Pierre a demandé au Christ, « Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole ?» Et le Seigneur lui dit, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ?» Comme s'il voulait dire que vous, mes disciples, vous êtes mes économes fidèles et prudents. Je répète donc, on a introduit le passage, on a bien lu le passage avec tous les détails que nous venons d'énumérer, et maintenant on passe à une troisième étape, c'est la compréhension des intentions de l'auteur, la personne qui a écrit le texte, le livre. Sa cible, son objectif. Tout d'abord, il faut expliquer les mots difficiles. Si on lit le texte, alors, avec un groupe, si jamais il y a des mots difficiles, il faut les leur expliquer. Ensuite, les idées difficiles. Et alors, si nous parlons de Saint Paul, il faut mentionner qu'il vraiment, il a certaines phrases qui sont trop longues. Hein? Je vous rappelle que Saint Paul était un philosophe et, par exemple, dans l'Épître aux Éphésiens, il a de très très longues phrases avec beaucoup, une cinquantaine de mots, une dizaine de lignes et la seule phrase, etc. Donc, il faut, si vous voulez, décortiquer la phrase avec l'audience et la subdiviser et l'expliquer. Ensuite, la suite des idées. Qu'est-ce que cela veut dire ? Si par exemple nous prenons le verset « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. » C'est Colossiens 3, 1. Je répète, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. » Alors, par conséquent, il ne nous est pas permis de vivre comme auparavant. Par conséquent, il faut lutter contre nos anciennes habitudes. Par conséquent, nous devons jouir de notre nouvelle vie. Voilà donc la suite des idées. Autre point dans la compréhension des intentions de l'auteur, c'est la signification des mots, des noms, pardon. Jésus, le Sauveur. Marc, c'est le marteau, etc. Donc, la plupart des noms, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, avaient une signification. Autre chose, il faut avoir avec soi une carte de géographie. Pourquoi ? Pour faire comprendre les distances, la localisation des villes. Je vous donne un exemple. Le Seigneur, pour rencontrer la Samaritaine, il a effectué une marche de 60 km et 5 heures à pied entre la Galilée et la Samarie, et ce, en vue de sauver cette dame, la Samaritaine. Preuve de l'amour du Christ envers chacun de nous. Donc, c'est un détail à ne pas négliger, parce qu'il est très significatif, l'amour du Christ. Et puis, en lisant maintenant, toujours dans la lecture, la compréhension de l'intention de l'auteur, on va essayer de trouver le lien entre le mot, les mots et la foi. En effet, comme missionnaire ou prêcheur, nous devons trouver la croyance, la foi, dans chaque texte. Par exemple, le baptême. Par exemple, le salut. Par exemple, la résurrection de Jésus. Hein? Notre foi est fondée sur toutes ces notions. Alors, en lisant chaque texte, il faut souligner, relever, trouver ces notions. Nous pouvons aussi nous demander, en lisant le texte, sur le caractère du Christ. Ici, comment le Christ paraît? C'est l'amour, avec un A majuscule, c'est le bon pasteur, c'est le juge, c'est l'éternel, et ainsi de suite. Alors, dans chaque passage, il y aura toujours un trait du caractère du Christ, il y aura toujours un trait de notre foi. Il y a aussi un point très important qui a rapport alors à notre foi orthodoxe. Quel est ce point ? C'est, il faut le souligner, le lien alors entre les mots et le statut de la prière. Quand Jésus nous a appris à prier, il nous a dit quoi ? À chaque fois que vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. À chaque fois. Il ne nous a pas dit de le faire une seule fois, mais à chaque fois. Alors à chaque fois que nous prions à l'église, en réunion, n'importe quoi, nous faisons nos prières de, on va remercier, on va demander, on va faire tout ce que vous voulez, les heures et tout ça, mais il faut commencer et terminer par cette prière, puisque Jésus nous l'a dit, à chaque fois, que vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Alors, il nous est permis de le faire. La troisième étape terminée, je répète, après avoir introduit le livre, après avoir lu le texte, après avoir compris l'intention de l'auteur, nous arrivons donc à notre quatrième et dernière étape, celle de la méditation et de la mise en application. Et là, à mon avis, cette étape-là est une étape très avancée. Hein? Il faut passer par les trois premières étapes pour arriver à la méditation et la mise en application, en pratique, si vous voulez, la mise en pratique. Et ceci est particulièrement important afin de délivrer le message de Dieu. Et alors là, il faut se poser les cinq W, en anglais, les cinq W de Père Daoud, Abuna Daoud. Quels sont ces cinq W-là? Why, pourquoi, where, où, when, quand, what, quoi, who, qui. Et il faut ajouter what if. What if, c'est quand, Q'EN, serait-il. Mais quand ça là-haut. What if, quand, Q'EN, serait-il si. Et alors, là, ça laisse à réfléchir. D'ailleurs, Abuna Daoud nous disait que les questions pourquoi, où, quand, etc., pour ces questions, il avait des dizaines, peut-être des centaines de réponses, mais pour cette what if, quand serait-il si, il avait des milliers de réponses. Et des réponses qui lui étaient inattendues et merveilleuses, hein. À laquelle il ne s'attendait pas. Et maintenant, après avoir posé toutes ces questions, après avoir réfléchi, après avoir répondu à ces questions, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le texte de côté. Alors, le texte, on le met de côté et on passe alors à un niveau plus avancé. À savoir, on peut réfléchir à ce qu'on aurait pu faire si on était à la place du Seigneur ou bien à la place de son interlocuteur. C'est-à-dire, dans un premier temps, je me mets à la place du Seigneur, à la place de Jésus, et une autre fois, je me mets à la place de son interlocuteur. Prenons par exemple la dame, la pécheresse. Hein? On voulait la lapider. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il était le seul, Jésus-Christ était le seul, à vouloir lui pardonner ses péchés, alors que les autres voulaient la lapider. Et alors, que chacun se demande, est-ce que je peux pardonner comme le Christ, ou bien vais-je moi aussi la condamner comme les pharisiens? Et quels auraient été mes sentiments si j'étais à la place de cette femme? Les deux. Est-ce que je pourrais pardonner comme le Christ? Ou bien, la plupart d'entre nous, je suis la première, on est enclin à condamner, à juger. Et autre question, et si j'étais, moi, la femme pécheresse, qu'aurais-je ressenti devant le pardon, l'amour du Seigneur? Et là alors, il y a un passage qui m'a marqué particulièrement, c'est celui de Daniel. Dans le livre de Daniel, le chapitre 1, verset 8, alors on dit que Daniel, il a refusé de se souiller avec le menu du roi. Daniel rafada atayib al-malik. Et alors, faisons-nous de même? Est-ce qu'on refuse le menu du roi? Le menu ici, ce n'est pas la nourriture, bien sûr. Mais alors, tout ce qui est merveilleux, tout ce qui est éclatant, tout ce qui brille, est-ce qu'on le refuse pour ne pas se souiller? Et toujours avec Daniel, lorsqu'il s'est mis à prier 3 fois devant sa fenêtre grande ouverte, en direction de Jérusalem, malgré les décrets du roi. Aurions-nous eu ce courage? Bon. Voilà. Alors, on peut se poser des questions et on peut se dire qu'est-ce qu'on a appris de ce passage. Et alors là, sur le plan de notre vie quotidienne, on peut utiliser des exemples contemporains pour prouver que ces paroles, ce ne sont pas les paroles de jadis, d'autrefois, « Ah, ça c'était le Christ et non pas moi », mais comment moi je peux mettre en pratique, je peux appliquer ces paroles, que ce soit au travail, avec mes amis, avec ma famille, avec mon entourage, etc. Donc il faut s'attarder un peu sur ce point, la mise en application, la mise en pratique de ce que nous étudions, parce que notre Dieu est un Dieu vivant, ce n'est pas un Dieu mort. Et alors, notre religion est une religion vivante. Elle est valable jusqu'à nos jours et on ne va pas se dire, bon, c'était le temps du Christ. Il faut mettre l'accent aussi sur les versets qui comportent quoi ? Qui comporte des promesses. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Les versets qui comportent des réalités. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Romains 5, 6. Et alors, pour les personnes qui maintenant ont l'habitude de lire la Bible, qui sont avancées un peu dans la lecture de la Bible, ces personnes-là, alors, peuvent aller plus loin et faire des comparaisons entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Par exemple, entre Moïse et le Christ, entre les Juifs et les païens, entre une histoire, par exemple, de l'Ancien Testament et une autre histoire du Nouveau Testament, entre 2 paraboles du Christ même. Et cela enrichit notre connaissance et notre compréhension de la Bible. Et en fin de compte, avant de laisser son audience, il faut choisir un verset ou 2 ou 3 et les apprendre par cœur. Et cela va, si vous voulez, comment dire, lorsque, par exemple, on va apprendre le verset de « Dieu est amour », ça va devenir réalité. Lorsqu'on va répéter ce verset, ça deviendra pour nous une réalité et non pas des mots ici. Pour terminer alors, je dirais que la Bible est le message du salut, de notre salut. La Bible, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est le Verbe. La Bible, c'est donc la bouée de sauvetage que nous devons lancer et faire parvenir à chaque être humain et à chaque frère. Merci.